Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast « Chambre avec vue ».
Il ne faut pas toucher aux idoles. La dorure en reste aux mains. Bovary, chapitre 12. Gustave Flaubert.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Gustave Flaubert. À partir des sources que vous nous avez fournies, on va regarder des analyses tirées notamment du Cambridge Companion pour essayer de cerner ce qui fait la spécificité de cet auteur majeur.
Absolument, on va décortiquer sa méthode de travail, presque obsessionnelle, on peut dire. Et puis, son rapport au langage, à la réalité, c'est complexe. Et bien sûr, son héritage. Flaubert, c'est vraiment bien plus que Madame Bovary, c'est une figure clé de la modernité littéraire.
Exactement. Alors, on commence par quoi? Peut-être cette image fascinante de l'ermite de Croisset. Flaubert, c'était l'homme-plume, hein, complètement dédié à l'écriture. Il y avait ce fameux gueuloir. Il paraît qu'il hurlait ses phrases pour tester leur sonorité. C'est une discipline incroyable.
Oui, oui, quasi monacale, c'est ça. Une dévotion totale. Et derrière cette image, il y avait une recherche documentaire ahurissante. Pour Salammbô, par exemple, il a ingurgité des tas d'ouvrages, même s'il disait, bon, se moquer un peu de l'érudition pure.
Ah bon? Mais alors, pourquoi toute cette recherche?
Ben, l'essentiel pour lui, c'était le style. Toujours le style.
La fenêtre d'Emma. Madame Bovary, chapitre 2. La lumière du crépuscule allongeait les ombres sur la terre. Et le soleil, passant entre les branches, lui éblouissait les yeux. Ça et là, tout au loin, un bruit vague s'étalait. Et l'on sentait cette mélancolie qui tombe avec le jour.
Cette musique de la phrase. Et pour l'atteindre, c'était une réécriture acharnée, une torture, comme il disait lui-même. Il cherchait sans cesse le mot juste, le seul mot parfait.
Le mot juste, oui. Et ces brouillons, on dit qu'ils sont importants aussi.
Ah oui, fondamentaux. On les considère aujourd'hui comme partie intégrante de l'œuvre elle-même, c'est dire.
Et là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est son rapport au langage. Les sources soulignent bien que, contrairement à Balzac par exemple, Flaubert doutait que les mots puissent vraiment saisir la vérité, une vérité stable. Tout devient problématique.
C'est un point crucial, oui. Ce doute, ce scepticisme, ça nourrit sa fascination pour la bêtise, les idées reçues, les clichés, tout ce prêt à penser qu'il détestait.
La bêtise.
Oui. Et paradoxalement, il s'en sert comme matière première. Comme fondation pour construire ses romans, en fait. Son ironie est... elle est terrible. À double tranchant, elle vise les personnages, bien sûr, mais aussi l'acte d'écrire lui-même, parfois. Ça laisse une ambiguïté toujours.
D'accord. Et ça explique peut-être pourquoi il n'aimait pas du tout l'étiquette réaliste qu'on collait à Madame Bovary.
Ah oui, il la rejetait violemment. Pour lui, ce terme était vide de sens, ou en tout cas réducteur. Son but, ce n'était pas juste de copier le réel, c'était d'explorer les failles du langage, de la perception, de dynamiter un peu les conventions.
Il affirmait l'indépendance de son art, en somme.
Exactement. Une autonomie totale. Et ça nous mène à une autre grande innovation, l'impersonnalité. Il cherchait une sorte de retrait, de détachement, pour mieux analyser, pour disséquer les psychologies sans jugement apparent.
Une sorte d'objectivité scientifique, mais appliquée à la littérature.
C'est un peu ça, oui. Une mystique esthétique, comme certains l'ont appelé.
Et c'est ça qui permet ce fameux style indirect libre, où on ne sait plus très bien si c'est le narrateur ou le personnage qui pense ou qui parle.
Tout à fait. C'est la technique clé pour ça. Ça brouille les pistes, ça efface les frontières. L'idée, comme l'a analysé Vargas Llosa par exemple, c'est de rendre le narrateur quasi invisible.
Invisible. Et pourquoi ? Quel est l'effet recherché ?
Eh bien, ça libère le lecteur en quelque sorte. Sans guide autoritaire, c'est au lecteur de s'engager, de former son propre jugement, de ressentir les choses par lui-même.
D'accord, je vois. Et l'impact de tout ça, il a été énorme sur la littérature qui a suivi, non ?
Ah oui, considérable. Zola, Maupassant, bien sûr, mais aussi Proust. Et même plus tard, le nouveau roman. Beaucoup se sont réclamés de lui. Son influence est profonde.
Il a changé la façon de voir l'art, en fait.
Oui, il a contribué à cette vision moderne de l'art comme une lampe qui éclaire de l'intérieur plutôt qu'un simple miroir qui reflète l'extérieur. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, et qui ressort bien des analyses, c'est ce paradoxe flaubertien.
Le paradoxe flaubertien, c'est-à-dire ?
C'est l'idée qui réussit à communiquer l'échec. L'échec des personnages, de leurs rêves, l'échec du langage, à tout dire. Et peut-être même son propre sentiment d'échec face à son idéal artistique. Et il fait de cet échec une forme de réussite littéraire suprême.
Réussir l'échec, ou réussir à travers l'échec, c'est puissant comme idée. Ça donne à réfléchir sur la création.
Tout à fait. Et ça soulève une question qui résonne encore très fort aujourd'hui, je crois. Dans notre monde actuel, saturé d'infos, d'idées reçues, ces mêmes clichés que Flaubert traquait sans relâche, comment l'art peut-il encore prétendre atteindre une forme de vérité ?
Même si c'est juste la vérité de nos propres limites.
Exactement. Même si c'est juste la vérité de notre propre faillibilité. C'est une question qui reste entière.
Une question à méditer, en effet. Voilà pour notre exploration des sources sur Gustave Flaubert. Merci de nous avoir accompagnés.
Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots. Les froids réveils sous la tente. L'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Et il songeait à tout ce qu'on avait tâché d'y faire, à tout ce qu'il aurait pu y faire lui-même. Les convives sortirent. Il resta seul. Gustave Flaubert. L'éducation sentimentale, 1869.
Analyse. Flaubert raconte une vie entière résumée en quelques lignes. Les silences, il resta seul, sont plus éloquents qu'un long discours. Les phrases courtes et juxtaposées miment l'éparpillement d'une existence ratée. L'accumulation d'expériences, mélancolie, froid réveil, amertume, culmine dans le vide final. Flaubert y atteint l'apogée du style impersonnel, pas de jugement, mais une accumulation de faits qui crée une émotion sourde.